Gens d'Amérique, d'Haïti et d'ailleurs.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Ouvrir toutes ses fenêtres et tout son être au chaos du monde, c'est le projet projectile d'un jeune poète venu d'une symphonie assourdissante, celle de Port-au-Prince. Le verbe plein de gueule et de cran d'arrêt, il écrit...
À l'aube d'une chanson de canon viennent bouger quelques bouts de chair gratuite. Cette rue, un plateau où se brise l'aventure du souffle. Un couteau qui scinde l'âme d'ici-bas.
Il pourrait le dire dans une autre langue, mais est-ce que ce serait moins cruel?
Quand nos finques t'en main chantées, guintanguin bout de viande, gratis tichéri, cap dansé. Riel ça, yon plateau côté souffle, suspend flanin, yon couteau cap tranché nom la tête bénie.
Jean d'Amérique est aussi cruel qu'une ruelle haïtienne. Il le prouve depuis Petite Fleur du Ghetto et depuis tous ses prix littéraires. Il le prouve avec son théâtre et avec son festival international transpoétique de Port-au-Prince. Et il le pieuvre en forme de long poème romancé intitulé « Soleil à coudre » paru chez Actes Sud et qui sonne joliment en cette journée internationale de la francophonie.
Haitian flag, yeah. Haitian flag, Haitian flag. Haitian flag, so gash it on. Haitian nouye. Kon Haitian pa kon jwe, kon Haitian pa kon jwe. Kami ti sop wel dansé, fere le men wa pase. Kon Haitian pa kon jwe, kon Haitian pa kon jwe. Sou nou goman yo soufflé, ozo nou yet pa kase. Ayi bobo, mouri e bo.
Bi fait tab, hasso juicy, glass on lad, seulement pas vle boko poussi. Mi se next week nous rehousi, na bit yo hwene kap juicy. Vodou la kajan no pizza se vi, tu pot tatu vini si. Mi wana mi wasi mi, hopa kon so wap si bi, tatu wa tete ku zombi, mem wana dormi. Tout bon ma rete ku momi, yo bin gel ho a minui. Bindou se met minui, mwana kafou katla, soudo yap fouta katla. Ayi se bi ke ba se bima, street nego se li kate film na. Po po bagye kino, ak jaki kantab zi mwen kino. Leve zombi tout nan se misye, lot na soble konne koman nou foufe. Yo vle di se nou mem ki pi mal fete, avan he yo manjou bou si hapete.
Makadal, makadal go pleve, makadal ted gen, makadal kase chen. Pa fok avem nego kama o, ya, sou fok avem nego kanan won.
Nous prenons la pour souvenance, des billets de bout de soudeuse, rejette un kill pour souffrance, tu as voulu ça son délivreuse, on fait nous son pénitence.
Midi sonne la vie, qu'on est arrivé pour zombie fin brown. Qu'on a ici pas qu'on joue, sous fait chier tout manger la vie brown.
Qu'on a ici pas qu'on joue, la tête nous a cadencé. Faut que tout le monde capte si souffert ma joue, balise, si nous faites péter que je mène ça t'a changé.
Qu'on a ici pas qu'on joue, qu'on a ici pas qu'on joue. Comme il dit, son poil dansé, faire une aimée va passer. Qu'on a ici pas conduire, qu'on a ici pas conduire. Sous nous, beau vent, y'a soufflé, aux eaux, nous y'a pas cassé. Aïe, bobo, mourir est beau, mourir est beau.
Ma couille, ma couille, ma couille, c'est l'un phénomène qui souille. Aïe, c'est filet qui bitouille. Moi, j'aime guider qui est souille. Moi, j'aime goumer pour t'y bouille. Moi, j'aime aller la tibonne. Moi, j'aime checker ta timonie. Me connais que si son petit comique. Me connais son bon si honnête. Faut qu'on apprend ton pour reconnaître. Faut qu'on fait philo retonner. Faut qu'on fait philo retonner. Pas pour corps. Pas qu'à faire pour corps. Parce qu'il est pas tatou. Parce qu'il est pas savon. Pas qu'à passer le sous corps. Pip, 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 made it. Que trap me obsède. Gavé non, je possède. C'est musique qui me possède. Le truc a passé un coup allumé. Depuis son bébé me cabalile. Aïe, c'est capé ou la marionnette. Le capre son goût met en marionnette. Non, ou la marionnette. Non, quand qu'à faire, mais la marionnette. Je dis 18 de mes 19. Aïe, c'est pas qu'une night dream. Ma boîte patron, ma boîte night dream. J'ai chez toi, gâché, nice team.
La 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 la. La, 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 la,
qu'on a ici pas conduire, qu'on a ici pas conduire. Comme ils disent, on peut danser, faire les mains à passer. Qu'on a ici pas conduire, qu'on a ici pas conduire. Sous nous, gros vent, y'a soufflé, aux eaux, nous y'a pas cassé. Aïe, bobo, mourir est beau, mourir est beau.
Derrière le poste, vous êtes déjà un pied à Port-au-Prince avec Tougachit. Bonjour Jean d'Amérique.
Bonjour Yasmine.
Et ce titre haïtien pas qu'on jouait, les Haïtiens ne savent pas jouer. De quel jeu s'agit-il?
En fait, cette chanson raconte un peu la manière de résister des Haïtiens, mais ils font beaucoup de références en fait au rituel vaudou. Avec l'aide des dieux, des lois vaudou, en fait, comment on peut résister, comment on peut combattre, en fait.
Alors, j'ai regardé un peu le clip. On y voit une horde de rappeurs sur un royaume de ruines, avec une esthétique de béton, de morts qui ressuscitent, de reliques religieuses. C'est une esthétique, j'imagine, qui vous intéresse, mais pour quelle raison?
Ben, en fait, j'ai remarqué que depuis quelques années, il y a chez beaucoup de jeunes en Haïti un retour vers ces éléments qui sont liés à nos racines en fait. Et je trouve ça assez intéressant qu'ils se tournent vers ces éléments qui sont, je peux dire, fondamentaux dans la culture haïtienne, dans l'identité haïtienne, entre guillemets. Mm-hmm. Et ça vient à travers une musique qui est tout à fait nouvelle en fait, la trap musique. Et je trouve intéressant cet alliage. Voilà, j'aime bien.
Lorsque vous étiez enfant, à quoi jouiez-vous?
Quand j'étais petit, tous les jeux étaient inventés, en fait, parce qu'on n'avait pas des jouets
tout
artificiels. Prêt. Et du coup, c'était des chants, c'était des danses. On créait nos propres jeux et c'était toujours rythmé.
Je ne sais pas ce qui peut m'inspirer cette question qui vient là, mais je la pose quand même. Est-ce qu'il y avait des armes à feu pour jouer dans votre enfance?
Des armes à feu, oui, à un moment donné, ça a commencé à arriver dans mon petit village en Haïti, au fin fond de la campagne. À l'époque, je ne comprenais pas forcément parce que tout à coup, on rêvait de choses qui se passaient ailleurs. Il n'y avait aucune référence immédiate pour faire écho à ces armes à feu, en fait, qui arrivaient comme des jeux, comme des jouets. Et après, quand je vais arriver un peu plus tard à Port-au-Prince, là, je vais comprendre parce que je vais découvrir la télévision, je vais découvrir la rue aussi, je vois des choses donc, qui vont me permettre d'assimiler tout ça, en fait.
Vous êtes né en 94, donc ce petit village, c'est Côte de Fer, et ça se trouve à 50 km de Jacmel. Vous grandissez, Jean d'Amérique, entre une maman couturière et commerçante et un papa cultivateur. Alors justement, avec ce patronyme qui est le vôtre, Jean d'Amérique, est-ce que vous connaissez les origines de votre famille?
Alors, Côte de Fer, c'est la ville, et moi je viens d'un petit village qui s'appelle Jackson, qui fait partie de Côte de Fer.
D'accord.
Et jusqu'à mes grands-parents, ils sont tous de ce village-là.
Et d'Amérique, ce n'est pas un pseudo?
D'Amérique, oui, c'est un pseudo que j'ai ajouté à mon prénom Jean. C'est un peu mon premier acte poétique, en fait. C'est mon acte de naissance artistique, en quelque sorte.
Quel acte pour un Haïtien que de se choisir d'Amérique?
Oui, j'aime beaucoup dire ironiquement que c'est pour faire un coup de gueule aux États-Unis qui croient que l'Amérique leur appartient. Mais sinon, ça exprime un désir de voyage, un désir de... pas vraiment de conquête, mais en tout cas de...
d'affranchissement.
Voilà, d'affranchissement, de... un désir de partir. Et moi, j'ai commencé à voyager dès que j'ai rencontré la poésie, en fait. Et c'est là que ce nom, il est venu.
Mmh. Ouais. Alors, vous l'avez dit, donc vous avez grandi jusqu'à 11 ans dans ce petit village. Et puis, pour continuer vos études en secondaire, vous arrivez à Port-au-Prince, dans un quartier qui s'appelle Carrefour Paloma.
Ouais.
C'est ça ?
Ouais.
Gros changement. Alors, il y a la télé, avec toutes les références, justement, qu'il ne faut pas, peut-être.
Tout à fait. C'était assez brutal, c'était assez violent, parce que c'est deux milieux complètement différents. Je n'étais pas du tout habitué, par exemple, aux voitures. Et tout à coup, tu te retrouves dans une ville qui est saturé de voitures. Donc il y a toutes ces images aussi, et c'est dans cette époque aussi et dans ces lieux aussi que je commence vraiment à faire face à la violence urbaine, en fait. Et je crois que tous ces moments-là sont déterminants dans ce que je vais commencer à écrire.
Alors en 2004, vous avez 10 ans de créativité, puisqu'il paraît que le quotidien à Port-au-Prince, c'est comme une activité créative, on y reviendra peut-être.
Oui.
Donc vous avez 10 ans et le pays a du kilométrage en matière de violence politique, puisque cette année-là est synonyme d'exil pour Jean-Bertrand Aristide, cet ancien prêtre défroqué, reconverti en chef d'État autoritaire.
Haïti en proie à de nouvelles violences avec une insurrection armée contre le président Jean-Bertrand Aristide. Les rebelles qui contrôlent la ville de Gonaïves menacent de marcher sur Port-au-Prince.
Les rebelles veulent le départ de l'homme qui a succédé au Duvalier, le père Jean-Bertrand Aristide, le premier président élu démocratiquement en Haïti. Un ancien curé des pauvres accusé de corruption aujourd'hui par les rebelles et une partie du peuple.
The people that are in the streets in Cap-Haïtien, in Hesh, in Gonaïves, in Port-au-Prince, in Maïsad, all over the country, I am the chief. I'm ready to die for my country. That's what I'm going to do now. That's what I'm going to do today. And I will fight for my country and for my people. And we're ready to die.
En Haïti, le président Aristide a démissionné ce matin. Il a quitté le pays pour une destination incertaine.
Dès cette annonce à la radio, les rues de Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays, aux mains des rebelles, explosent de joie. Aristide est parti, Aristide est dehors.
I'm just happy for the country and for myself and all the guys here fighting. He has made so many bad things to the country. He has to be judged.
Souvenir d'enfance et souvenir, vous diriez, traumatique pour vous, Jean d'Amérique?
Ouais, je me souviens très bien. J'étais dans mon village et on avait toutes ces nouvelles par la radio. Vive la radio. On avait toutes ces nouvelles et voilà, je voyais mes parents qui étaient un peu perturbés parce qu'on avait de la famille à Port-au-Prince aussi. Et à un moment donné, dans mon école, il y a des gars qui sont arrivés armés. Et en fait, c'était des jeunes qui sont du village, mais qui sont partis à Port-au-Prince à un moment donné. Et j'ai l'impression que pendant qu'il y avait ces troubles politiques, ils étaient pris dans une spirale, dans un cycle de violence dont ils n'avaient peut-être même pas compris le sens, et ils sont venus au village pour nous terroriser. Et je me souviens, ils arrivent à l'école, ils demandent qu'on ferme l'école, et nous, les enfants, on avait vraiment peur, on a commencé à courir dans tous les sens. C'était... ouais, c'est une image un peu traumatisante pour moi. Et je me souviens qu'il y avait aussi plein de gens qui fuyaient Port-au-Prince aussi, donc qui revenaient au village.
Donc la politique a toujours fait partie, a toujours un peu débordé sur votre enfance, votre quotidien. Est-ce que vous reprendriez pour vous cette phrase que j'ai lue dans Soleil à coudre ? L'enfance est une blessure dont on ne peut pas se laver.
Oui, tout à fait. Je le crois, je le sens. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je vis maintenant. C'est des échos de mon enfance, ou bien dans ce que j'écris aussi. Je puise beaucoup dans mon enfance parce que c'est le lieu du rêve absolu, l'enfance. C'est aussi peut-être le commencement de la poésie, le commencement de la littérature, parce qu'on apprend à rêver et écrire. C'est, essayer de rêver.
Alors, je ne sais pas si c'est lié, cette histoire de blessure, mais à 18 ans, vous parlez d'un moment de rupture avec votre famille.
Oui, alors en fait, je suis né, j'ai grandi dans une famille chrétienne assez conservatrice. Et à un moment donné, je commence à découvrir autre chose. Et
c'est quoi autre chose?
Ben, des livres. Je commence à avoir des amis aussi. Quand j'arrive à Port-au-Prince, en fait, je commence à avoir des amis aussi qui sont dans d'autres perspectives, qui ne sont pas forcément chrétiens. Et aussi, quand
Dans l'islam, dans quoi vous... Parce que vous n'avez pas l'air de vouloir le dire.
Pas forcément en opposition directe avec le christianisme. Donc, je ne parle pas forcément de religion. Mais le fait que la religion souvent rejette des choses qui n'ont pas forcément une logique. En tout cas, dès que ça ne va pas dans le sens de ce que cette religion veut, elle le rejette. Et quand j'ai commencé à vouloir faire des choix, genre ne pas aller à l'église ou laisser pousser mes cheveux, parce que en Haïti, malheureusement, c'est encore très mal vu quand on porte des dreadlocks.
Vous avez des dreads magnifiques.
Ouais. Merci.
Et ça a été compliqué.
Ça a été très compliqué. On a fini par me mettre à la porte parce que j'avais choisi de faire de l'art, parce que j'avais choisi d'aller étudier à l'école normale supérieure en philosophie et à la faculté d'ethnologie.
C'est pas si mal.
C'est pas si mal, c'est ce que je me suis dit, mais ça n'a pas une bonne réputation auprès des chrétiens ou bien auprès de la population en général, parce que c'est les étudiants de ces facultés-là qui sont tout le temps dans la rue à revendiquer des choses. Et donc, on les voit plutôt comme des fauteurs de troubles. Et aussi, les parents, souvent, ils vont exprimer une sorte de crainte, en fait, en disant « Tu vas finir avec une balle dans la tête, une balle des flics dans la tête. » Et donc, il y avait tout ça. Et c'est dans ces espaces que j'ai rencontré plein de gens qui sont devenus ma famille, en fait, et qui m'ont beaucoup appris sur le plan artistique. Parce que le milieu culturel, artistique en Haïti est très lié au milieu étudiant aussi.
Donc coup d'état familial, mais coup d'éclat avec l'écriture. Est-ce qu'il y a eu, vous diriez, une sorte d'épiphanie, de révélation mystique par rapport à l'écriture? Quand est-ce que la poésie, Jean d'Amérique, vous a pris pour cible?
Je crois que ça a commencé par le rap. Et je commence à écrire des textes comme ça avec mes copains au lycée pour se challenger.
Alors, il y a eu un déclic sur un auteur en particulier ou un livre?
Plusieurs, mais je me souviens de Franck Etienne, pourtant qui a une écriture assez radicale en termes d'esthétique. Le premier livre de lui que j'ai lu, c'est « Mur à crever ». Et ça m'a vraiment remué, ça m'a retourné. Et je me suis aussi identifié à ce qu'il raconte, parce que c'est une espèce de révolte intérieure à la fois, mais aussi d'une révolte du pays contre les impérialistes. Ouais, c'est un livre qui m'a marqué.
Donc vous lisez, et puis à partir de 2011, vous allez dans des soirées pour slammer des textes qui vont sortir en 2015 sous le titre « Petite fleur du ghetto » pour en sol majeur. En voici un extrait.
Ici, petit homme fait sa prière dans une cagoule. La nuit, il berce la rue, les ruelles, les corridors, par un cantique amer, une mélodie violente. Sa guitare est un calibre. Paboïcite, tineg prier dans cagoule. L'ennui, lui fait la rue, tout tiriel à corridor, dormi. À qui on cantique goufiel, yon mélodie qui va manger en yin fret. Guital, c'est en physique. Il suffit autant de marquer quelques pas pour que petite fleur soit plateau ou pullule des cadavres. Depuis tant simplement sous qu'école, tite sa toune savane, côté cadavre poussé coup de jonjon.
Extrait de Petite fleur du ghetto. Donc, je précise quand même que c'est un recueil préfacé par le grand James Noël, qu'on salue en sol majeur d'ailleurs. Beaucoup d'armes, beaucoup de sang, beaucoup de cadavres, hein, et dans les rues de Port-au-Prince, et sous votre plume, dans votre poésie à vous, Jean d'Amérique. Ça veut dire quoi? Pas de cadavres, pas de poésie?
Disons que j'en ai vu beaucoup dans ma vie à Port-au-Prince, et quand j'écris, c'est comme s'il y avait toutes ces images qui me revenaient, ou même l'odeur de ces cadavres qui me revenaient. Et en écrivant, j'essaye d'aller au-delà de ça, en fait, parce que je cherche une espèce de lumière. Et jusque-là, c'est dans la poésie que je l'ai trouvée, c'est dans la littérature que je l'ai trouvée.
Alors un mot, Jean d'Amérique, sur le fait que, en fait, vous avez arrêté le slam. Vous revendiquez aussi le fait d'être poète, en fait.
C'est une lutte. Être poète, c'est une démarche, je pense, éternelle. On essaye d'être poète toute sa vie.
Et en même temps, je me disais que finalement, c'est quelque chose qui est en train de disparaître de la surface de la Terre, la poésie. Ça n'intéresse plus les hommes de nos années iPhone, carte bleue et Facebook.
Bah, c'est dommage pour eux parce que...
C'est dramatique, vous voulez dire?
Ouais, c'est dramatique, mais je sais que la poésie finira par gagner parce que tout a commencé par la poésie.
Alors, vous avez un trésor national dans le cœur, vous l'avez cité déjà plusieurs fois, ce trésor national Franck-Étienne, dont on va entendre le chant, qui, pour survivre à la prison, qu'il a connue de multiples fois dans sa longue vie, a accouché d'une sorte de démence poétique qui s'appelle Fouki-Foura.
Ouais.
Donc, il a joué un rôle central, en tout cas, vous diriez, dans votre prise de parole.
Oui, parce que un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui peut vraiment créer ces lieux qui nous dérangent, en fait. Et il a réussi à faire ça chez moi.
Crio son de mi waoi legbae. Crio son de mi waoi legbae. Aïzan vie, vie, crio son de mi waoui, legbae, legbae.
C'est comme coup de théâtre.
Et vous voilà donc sur les ailes peut-être de Franck-Étienne avec votre premier roman donc intitulé « Soleil à coudre », Jean d'Amérique. Un roman qui raconte l'odyssée ténébreuse, je reprends vos mots, de Tête Fêlée, c'est votre héroïne, c'est une tragédienne aussi, qui vit à la Cité de Dieu, c'est un bidonville de Port-au-Prince, entre Fleur d'Orange, sa mère qui carbure au rhum et celui qu'elle appelle papa. Est-ce que vous avez démarré à partir de ce trio un peu biblique et en tout cas maudit?
J'ai commencé par le personnage de papa. Tout le monde dans le quartier l'appelle papa. C'est peut-être plus pour ce qu'il représente dans le quartier, c'est-à-dire un bandit donc, qui a une certaine autorité. Et puis, c'est un personnage qui, d'une manière générale, est assez violent. Donc, c'est un peu cette image-là que j'avais en démarrant.
Alors, c'est intéressant parce que, justement, vous donnez effectivement des noms qui sont contradictoires avec les personnages que vous avez conçus. Qu'est-ce que vous diriez de Tête Fêlée et de Fleur d'Orange?
Ben, Tête Fêlée, c'est à la fois, je peins son côté sombre. On a l'impression qu'elle vit dans une certaine fatalisme parce que il y a un destin qui est comme prédit à Tête Fêlée, en fait, cette phrase que papa profère en lui disant « Tu seras seul dans la grande nuit ». Et voilà, ce nom fait un peu écho à cette fatalité qu'on a l'impression qu'elle subit. Mais aussi, je la vois comme quelqu'un qui est blessé, mais qui se bat continuellement.
Et Fleur d'Orange ?
Fleur d'Orange existe vraiment dans le silence et dans la violence. C'est la violence de papa d'abord. Et d'un autre côté, elle subit aussi ben, la violence de la société. On va même voir comment elle est appelée par des hommes politiques.
En fait, c'est une prostituée.
C'est une prostituée, voilà, qui offre ses services à plusieurs catégories de gens. Et elle a beaucoup vécu aussi.
Alors, dans cet Haïti, qui est un pays de gangsters de 12 ans, comme vous dites, Jean d'Amérique, vous campez en fait avec une sorte de soif absolument hargneuse, une galerie de personnages incroyables, digne d'un film noir, et où l'on rencontre la corruption, la prostitution, les hold-up, les enlèvements, le quotidien presque classique des Haïtiens. Pas une parcelle de cœur pur dans ce décor, sauf le cœur de Tête Fêlée pour Silence. Présentez-nous un peu ce tandem féminin inattendu.
Je voulais tout simplement raconter une histoire d'amour. Après, dans le livre, c'est un peu un amour impossible parce que...
Entre deux filles, déjà. L'une est fille du professeur d'histoire qui va très mal finir, et l'autre est Tête Fêlée, fille de rien, fille d'un bidonville.
Ouais, c'est ça. Il y a déjà ce contraste de milieu social qui fait que c'est compliqué. Mais sinon, voilà, je voulais vraiment raconter une histoire d'amour sans poser la problématique du fait que ce soit deux filles, en fait. Parce que je trouve que généralement, quand on raconte des histoires d'amour homosexuelles, on le prend toujours en montrant la difficulté d'être homosexuel. Et c'est pas ça qui m'intéressait. Parce que deux personnes homosexuelles qui vivent quelque chose ensemble, c'est pas que la difficulté d'être, ils vivent aussi leur amour. Et moi, c'est l'idée de cet amour qui m'intéressait.
En tout cas, en quelques heures, dans ce soleil à coudre, votre Tête Fêlée, votre héroïne subit un viol, elle commet un meurtre et elle connaît la jouissance dans les bras de Silence. Comme si c'était un peu un condensé de vie de tout jeune haïtien.
En tout cas, j'ai essayé de cristalliser plein de choses comme ça qui arrivent par-ci par-là à des jeunes haïtiens, à des jeunes dans le pays. Et voilà, le personnage de Tête Fêlée, c'est tout ça. C'est tout ce qu'un enfant à cet âge-là vit. Et beaucoup plus que l'âge, c'est ce qu'on vit en fait qui nous fait grandir dans ces milieux-là. On voit bien que elle est très très jeune, mais au final, elle a vécu tellement de choses horribles. Et elle est amenée aussi à participer à cette violence.
Elle est prise dans le système. Ce qui est très étonnant, c'est qu'elle est à la fois très violente, tout en restant très pure. Alors maintenant qu'on a un petit peu planté le décor de votre Port-au-Prince, Jean d'Amérique, on va retrouver votre plume et Tête Fêlée, qui, dans ce moment de roman, est à la morgue où se trouve le corps de sa mère. Et là, elle est accueillie par trois femmes, dont l'une d'elles s'adresse à Tête Fêlée.
S'il y a une chose dont on se réjouit, c'est de faire plaisir aux cadavres, les soigner comme il se doit, qu'ils n'aillent pas frapper la porte du paradis avec le cul sale. Nous faisons cela depuis 20 ans et sommes une référence en la matière. C'est comme si nous étions nés pour travailler dans le domaine de la mort. Nous avons tout vu, des syndicalistes que des jeunes ont tué avec des armes illégales fournies par le gouvernement, des femmes tombées sous les matraques de leurs partenaires en pleine rue, des enfants butés parce que leurs parents n'avaient pas de quoi payer leurs ravisseurs, des passants du bicentenaire, des étudiants rebelles, des ouvriers qui voulaient se syndiquer, des mecs qui n'ont rien fait d'autre que se retrouver face à la police avec leurs dreadlocks, des piétons qui vivaient dans une ville sans passage piéton, des chauffeurs qui roulaient sur une route sans code dans un pays où la seule contravention de circulation condamne le fait de ne pas graisser la patte aux flics qui vous arrêtent, des gens qui ont essayé de vivre ou de penser en dehors de la société hétérosexuelle, des gens qui croyaient pouvoir cultiver la dignité dans le champ politique, des patients que le manque de structure a fait trop patienter devant l'hôpital général. Bref, toutes sortes de cadavres ont défilé ici. Ils entrent par ce portail et jamais, allez leur demander si vous voulez, ne repartent de leur plein gré. Jamais ne repartent si ce n'est pour aller grossir la grande famille de Baron Samedi. Jamais nous n'avons eu pareil cas ici.
Pour en sol majeur, un extrait de Soleil à coudre, votre premier roman, Jean d'Amérique. Pourquoi ce titre d'ailleurs, Soleil à coudre ?
Parce qu'on est dans la nuit en fait, dans tout ce qui se passe dans le livre, c'est assez ténébreux. Et aussi Tête Fêlée, le personnage principal, elle est tout le temps en quête de lumière. Et en écrivant ce livre aussi, je me suis rendu compte que c'était ma quête parce que avec toutes ces violences que je décris, c'est une quête de lumière que je poursuis. Et je me rends compte que ce qui nous tue pas nous rend peut-être un peu plus poète.
Mmh. En tout cas, c'est vrai que dans votre viseur, il y a du monde, hein, l'école qui n'éduque pas, les politiques, les flics, les chrétiens...
Ouais.
Qui pense que tant qu'il y a le paradis, ben, ma foi, après nous le déluge, hein, même si la terre ne tourne pas rond, c'est pas si grave. C'est un inventaire à l'instant, là, dans cette scène qui se passe à la morgue, qui est à la fois magnifique et à la fois terrifiant. C'est comme si c'était un peu le portrait moribond de votre Haïti. Mais c'est un bonheur de vous lire, Jean d'Amérique. J'ai repris comme ça dans la poche certaines de vos expressions. Papa enfile sa robe de colère. Ce politicien dont le cul est fabriqué pour toutes les chaises, le seigneur des entrecuisses, etc. Alors, la difficulté pour vous dans l'écriture, est-ce que ce n'était pas justement la poésie ? Est-ce que la poétique n'a pas été un piège au moment de mettre en place un dispositif romanesque ?
Pas exactement un piège, parce que je savais dès le départ que, oui, j'écrivais un roman, mais en restant poète. C'est très important pour moi. Bon, je pense à Sonny Laboutancy qui dit « On est écrivain qu'à condition d'être poète ». Et c'est essentiel de trouver cette langue-là qui permet aussi de donner une certaine élévation aux actions, aux récits. Parce que quand on raconte qu'on est sorti boire une bière, bon, même si en ce moment, c'est pas possible, il y a une manière qu'on peut raconter ça avec un petit supplément de poésie qui va donner un côté lumineux à ça.
L'ennemi le plus grand, je crois, d'un écrivain, c'est le mensonge. Et je suis guetté par le mensonge et puis également par la facilité. Alors, pour combattre ces deux ennemis, je crois que je regarde beaucoup, je surveille, j'écoute, j'apprends à parler, j'apprends à écouter, j'apprends à regarder aussi tout ce qui se passe autour de moi. Et si bien que, bon, je travaille dans une certaine mesure comme un policier qui mène une enquête et qui fait son travail, parce qu'il y a des policiers qui peuvent bien faire leur travail en essayant de savoir où est la vérité.
Petit cadeau en sol majeur, assez attendu, la voix de Sonny Laboutancy, une de vos références, hein, Jean d'Amérique. À écrire comme vous écrivez, on le sait maintenant, il faut peut-être se brûler à la vie, à cette vie de ghetto, de bidonville et de criminalité que vous écrivez aujourd'hui. Mais c'était une question, je me demandais s'il le fallait vraiment. Est-ce qu'il faut avoir tué pour écrire la mort, n'est-ce pas ? Ou est-ce qu'il faut seulement être un enquêteur ?
Peut-être plus un enquêteur.
Je vous remercie.
Je préfère ça, en tout cas. Après, quand on écrit des choses, c'est parce qu'on observe, c'est parce qu'on constate. On est là pour ça, en fait. On est là, sur cette terre, dans ce monde, à accumuler des histoires. Quand j'écris des choses comme ça...
C'est... Donc, le drame d'Haïti, c'est aussi votre chance d'auteur ?
Pas forcément, parce que je pense pas que c'est le chaos en soi ou la violence en soi qui produit la beauté, qui produit la littérature. C'est comment on aborde ça. Et puis après, Haïti n'a pas du tout le monopole de la violence. Donc c'est des questions qui traversent l'humanité. Et je pense que comme être humain tout simplement, et ensuite comme écrivain, ouais, je me sens porté par ce besoin de les dire, en fait.
Écrire, est-ce que c'est aimer ?
Sans doute, oui. Aimer la langue, aimer l'autre, parce qu'on adresse une parole à l'autre.
J'y comme. J'aime. J'aime pas.
Le cannabis.
J'aime parce que l'odeur est bonne et ça me fait du bien quand je le fume.
J'ai rien entendu. La vie normale.
J'aime pas. Il faut que je sois dans des tumultes, en fait. Pas forcément de manière négative, hein, mais il faut des remous. Je peux pas subir la même chose tous les jours.
Vivre en France.
J'aime. Ouais, j'aime bien. J'aime bien parce que... Ouais, je retrouve des choses que j'aime. Et puis aussi, bon, actuellement, par rapport à mon travail artistique, ça se passe beaucoup en France. Donc, j'aime bien le fait que je sois là pour mieux mener ça.
Être un peu moins haïtien.
J'aime pas.
Vous le sentez, ça, que vous vous transformez?
En fait, oui, je suis porté par tout ce que je vis. Donc, le fait que je suis en dehors d'Haïti, que je côtoie d'autres gens, que je côtoie d'autres milieux, d'autres cultures, ça me nourrit beaucoup. Ça, j'aime beaucoup parce que, au final, c'est ce voyage à la fois intérieur et en allant vers l'autre qui me permet d'être la personne que je suis. Mais en même temps, je suis toujours porté par un imaginaire haïtien qui m'accompagne et ça, je souhaite pas le perdre.
Le journal Le Monde.
Ouais, je suis un peu, mais pas tout, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui font actualité, qui sont pas forcément essentielles pour une vie, en fait.
Comme quoi?
Les débats Covid.
Écrire en créole?
J'aime. C'est une langue que j'aime beaucoup et qui est imprimée dans ma chair, dans mon cœur, dans mon imaginaire.
Mais vous ne vous traduisez pas vous-même, pourquoi?
Ben, c'est-à-dire que c'est très compliqué, en fait. Je ne suis pas traducteur, malheureusement. Voilà, je connais le français, je connais le créole, mais quand je pense quelque chose et que je l'écris en français ou que je pense en créole, j'écris en créole, c'est difficile pour moi de passer d'une langue à l'autre parce que je trouve que chaque langue a sa manière de fonctionner qui fait que je vais créer une image de telle manière dans une langue et je ne peux pas la créer dans l'autre langue, en fait. Ouais, ça arrive. Et d'ailleurs, Petite Fleur du Ghetto, mon premier recueil,
ouais,
c'est quelqu'un d'autre qui l'a traduit en créole haïtien.
On le nomme peut-être?
Erickson, je dis.
Je vous remercie.
Il a fait un très beau travail.
Écrire en katab yassin. Bah tiens, avant que vous répondiez à cette question, Jean d'Amérique, on écoute un bout de son cadavre encerclé.
Ici, je suis né. Ici, je rampe encore pour apprendre à me tenir debout, avec la même blessure ombilicale qu'il n'est plus temps de recoudre. Je retourne à la sanglante source, à notre mère incorruptible, la matière, jamais en défaut. Tantôt génératrice de sang et d'énergie, tantôt pétrifiée dans la combustion solaire qui m'emporte à la cité lucide au sein frais de la nuit. Homme tué pour une cause apparemment inexplicable tant que ma mort n'a pas donné de fruits, comme un grain de blé dur tombé sous la faux pour onduler plus haut à l'assaut de la prochaine ère à battre, joignant le corps écrasé à la conscience de la force qui l'écrase, en un triomphe général où la victime apprend au bourreau le maniement des armes, où le bourreau ne sait pas que c'est lui qui subit, et la victime ne sait pas que la matière gît inexpugnable dans le sang qui sèche et le soleil qui boit.
Voilà, katab yassin, parce que c'est une de vos références, Jean d'Amérique, et aussi parce qu'on vous présente, j'ai lu ça, et ça doit vous faire plaisir, comme la plume montante de la francophonie, dites donc.
Wow.
Ça tombe pas mal, hein, puisqu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la francophonie, et donc de la question qui va avec, et d'un vieux débat qui est toujours plus ou moins dans les airs. Est-ce que vous vous inscrivez plutôt dans ce qu'on appelle la littérature monde en français, ou bien dans la francophonie littéraire?
Bon, j'ai l'impression que on n'arrive pas à statuer sur ce que c'est la francophonie vraiment. Je préfère dire que j'écris en français et je m'adresse à tout le monde. Ouais, francophonie littéraire, je sais pas comment le définir. Est-ce que dès qu'on écrit en français, on est dans la francophonie littéraire, donc Haïti, la France et tous les autres pays francophones. Mm-hmm. Si c'est ça, oui, je suis là-dedans. Et en même temps, littérature monde, oui.
Vous êtes dans le en même temps, hein. Vous êtes un peu macroniste, littérairement parlant. Mais ce balancement linguistique dont vous parliez, là, ce passage du créole à la langue française, ces deux colonnes vertébrales intérieures comme ça, est-ce que c'est un balancement nécessaire, un bienfait même, vous diriez, pour la langue francophone ?
Moi, même quand j'écris en français, j'aime bien dire ça, il y a toujours un bruit créole, il y a toujours une sève créole qui vient nourrir ma manière d'écrire en français. Et ouais, il y a une musique intérieure qui vient et ça vient direct de l'imaginaire haïtien à partir duquel j'écris et qui est nourri par le créole en fait. Et du coup, je pense que c'est chaque écrivain de n'importe quel pays avec son imaginaire qui va venir irriguer la langue française. Et c'est ça qui fait que peut-être quand on lit des écrivains qui viennent de pays différents mais qui écrivent en français, on peut souvent ressentir cette diversité. Voilà, on sent que c'est nourri de choses différentes en fait. Mmh. Et moi, je le sens en écrivant. Et c'est pas une démarche systématique que je cherche en artisan à faire. Ouais, ça vient tout naturellement parce que je suis nourri par cette sève créole.
Est-ce que vous avez l'impression en tant qu'auteur haïtien d'appartenir, je ne sais pas, enfin je vous présente moi comme auteur haïtien, vous voyez. Qu'est-ce que je dois dire, auteur francophone ?
Auteur tout court.
Mais ça c'est l'idéal, ça sera dans une autre vie, hein, genre d'Amérique.
Mais je suis haïtien aussi.
Je sais bien, on est bien
auteur
on est bien
et haïtien.
D'accord. Mais auteur, ça c'est le nec plus ultra. Est-ce que vous avez l'impression d'appartenir à un peuple de poètes ? Et c'est ce qui serait peut-être la motivation de ce festival que vous créez et qui a lieu à Port-au-Prince, transpoétique ?
Oui, c'est un pays où la poésie a beaucoup d'importance. C'est très, très présent et très, très estimé. Même socialement, être poète, ça donne quelque chose, quoi. Et je connais, en tout cas dans ma génération, mais plein de jeunes, c'est difficile de rencontrer un jeune qui ne veut pas être poète.
Ah oui, hein.
Donc ça, je trouve que c'est déjà formidable. Et il y a plein de jeunes aussi qui parfois ne peuvent même pas manger correctement tous les jours, mais qui vont faire des économies pour imprimer leur propre cahier de poésie. Je trouve ça assez fort.
Et d'ailleurs, je remarque que dans votre inventaire à la morgue, il y a des cadavres, mais il n'y a pas de poètes dans votre liste de cadavres.
Ah, je veux pas que les poètes meurent. Mais non. Il faut que la poésie reste vivante. Il faut que les poètes restent vivants pour nous donner la vie, en fait. Parce que c'est ça qu'on veut. C'est la vie qu'on veut et c'est la poésie qui nous donne ça.
Une Canadienne d'origine haïtienne nommée Mélissa Lavaux pour se quitter. Est-ce que ça vous va ?
Oui, elle est géniale. J'adore ce qu'elle fait. Sa musique, à la fois dans les textes et dans les sons, elle utilise un fond vraiment qui vient d'Haïti, qui vient des racines haïtiennes. Et elle le frotte au blues, au rock, et ça donne quelque chose de sublime. Et elle a une voix aussi qui nous transporte, mais je ne sais plus où, quoi.
Merci en pile.
Ah, mais si, en pile. Pour pas les créoles.
J'essaye, quand vous voulez, hein, pour m'apprendre 2-3 rudiments. Merci Jean d'Amérique de cette belle visite en sol majeur. Je rappelle votre premier roman Soleil à coudre qui vient de paraître chez Actes Sud.
Thank you.
Nan fond de bois, qui veut dire
au fond des bois.
J'adore. En sol majeur, émission à réécouter en podcast ou en direct. On aime bien ça aussi. Chaque samedi et chaque dimanche, à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Steven Hesley, Yasmine Chouaki. On remet le couvert demain avec Linda Lee, une romancière. Vous la connaissez?
Non, pas encore, mais je vais la lire tout de suite.
S'il vous plaît.
Tous les cinémas du monde.
Elisabeth Le Quéret.